C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Vincent Patinier se décrit comme un militant queer et un allié féministe. Il vient de publier un essai « Comment survivre à votre fatigue de genre ». On en a parlé un petit peu en début d'émission avec Victoria Legault, qui est directrice générale de la TQ. Les gens sont fatigués de toujours devoir s'expliquer. Vous allez voir que c'est intéressant ce qu'il en a fait comme analyse et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'aider là-dedans. Alors, dans cet ouvrage, il explore l'épuisement lié aux normes et aux luttes de genre dans notre société actuelle. Vincent, qu'on rejoint en France, merci d'être avec nous.
Merci, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous.
On est content de vous avoir. Vous distinguez la fatigue de genre de la gender fatigue. Pouvez-vous nous expliquer un peu qui subit quoi dans un ou l'autre des cas?
Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a pris le parti avec mon éditeur de dissocier les deux. Quand moi, je parle de fatigue de genre, je parle vraiment des personnes concernées, des personnes minorisées, minorées, en fait, des personnes dominées qui subissent, eh bien, au quotidien des micro-usures, une hypervigilance, une surcharge pédagogique, des injustices épistémiques, des oppressions, des stigmatisations, et j'ai envie de dire trois petits points vers le carrefour des oppressions, en fait, au quotidien et au-delà. Voilà. Et quand je parle de gender fatigue, je parle plutôt des personnes qui seraient, entre guillemets, non concernées, les personnes plutôt dominantes, qui seraient davantage lassées par le sujet du genre ou en inconfort par rapport à la thématique.
Oui, on en a assez entendu parler, qu'on dit souvent, là, je comprends. Vous parlez d'un système d'IA cis-hétéronormatif. Là, c'était tout un terme. En quoi ce cadre est-il le moteur là, principal de l'épuisement que vous décrivez?
Parce qu'en fait, ce système, il va figer en fait les identités. C'est un système qui va figer les corps, qui va figer les vécus en fait des personnes, et que, eh bien, en fait, on se rend compte que ce système est très présent, même de manière implicite. Et dès que, eh bien, on essaye de sortir finalement de ce contexte, de ce cadre, eh bien, les coûts sociaux s'abattent en fait, et les gens en fait subissent en fait un maximum en fait de violences et de micro-violences au quotidien. Et en fait, ce système, l'idée, c'est de tenter de le fissurer à minima, non pas en essayant d'opposer davantage les gens, c'est pas du tout l'idée, mais c'est plutôt d'essayer, en fissurant, d'amener à comprendre peut-être un petit peu mieux, eh bien, ce qui cause en fait les inégalités structurelles et ce qui brise des vies, en fait, tout simplement.
Moi, en lisant le livre, j'ai été époustouflé hein, par ce qu'on parle du poids des questions pseudo-bienveillantes. Alors, donnons peut-être quelques exemples de c'est quoi des questions pseudo-bienveillantes.
Alors, dans l'idée des questions pseudo-bienveillantes, en fait, on a vraiment cette idée que derrière, en fait, les mécanismes en fait réguliers, discursifs, en fait, eh bien, d'ailleurs, ces questions, on a toujours une vigilance, nous, à obtenir, en fait, à acter, en fait, par rapport au poids des questions qui vont être posées, c'est-à-dire que des questions qui vont sembler parfois bienveillantes, légitimes, en fait, elles cachent derrière un système qui va être un peu plus insidieux et qui va inviter, en tout cas, chez la personne concernée, à toujours être en mode un petit peu, eh bien, de surcharge et qui va alimenter ses micro-usures au quotidien. Encore une fois, des questions qui pourraient paraître chez les personnes non concernées comme, encore une fois, bienveillantes, qui peuvent paraître légitimes, mais en fait, pour les personnes concernées, qui sont juste fatigantes, en fait, au quotidien. Donc, c'est un petit peu derrière l'idée, on avait envie de les résumer derrière
Ouais,
un prisme.
Je vais quand même donner quelques exemples précis parce que moi, je les entends encore, puis ça me surprend qu'on pose encore ce genre de questions. Est-ce que tu as eu une chirurgie? Ou encore, est-ce que c'est quoi l'effet des hormones? Est-ce que c'est pas une phase? Faut faire attention aux enfants. Il y en a tellement, tellement de ces questions-là. Je me dis que ça doit être lassant à la longue. Et justement, c'est énergivore. Et comment ces personnes-là reçoivent, hein, les personnes qui subissent ça, comment reçoivent-elles donc ces questions trop peut-être insidieuses?
Eh bien, les réponses, les réceptions peuvent être très violentes, hein. Les exemples que vous avez donnés sont très justes. En fait, on a un échantillon qui peut paraître encore une fois anecdotique, hein, mais en fait qui est extrêmement violent. C'est-à-dire que pour les personnes concernées qui ont effectivement, eh bien, par exemple, entamer une transition de genre, etc., on n'a pas forcément envie d'avoir des questions qui soient complètement, eh bien, en dehors du respect de la personne et de sa dignité, en fait. Donc forcément, en fait, on atteint directement à la dignité de la personne. On ne poserait pas ces questions-là à des personnes plutôt 6, 7, etc., qui prendraient, je sais pas, un traitement. On n'irait pas leur demander quel impact sur leur corps. Alors qu'en fait, sur, par exemple, des personnes trans, on va être directement dans une espèce d'obsession, en fait, une fascination qui va être complètement, eh bien, inconfortable pour les personnes, voire encore une fois très violente. Et moi, c'est ça en fait que je voulais un petit peu montrer sur ce. Quand je dis le poids des questions, c'est vraiment le poids. Je pèse le mot pour le coup. C'est vraiment en tout cas quelque chose qui est pesant pour les personnes et donc qui au quotidien, en tout cas, devient profondément fatigant. Et donc à un moment donné, il y a des questions, faut peut-être pas trop les poser, en tout cas.
C'est que ça augmente la charge mentale des personnes. C'est un terme qui est une expression qui est relativement nouvelle charge mentale, mais c'est quand même ça. La personne, tous les jours, doit composer ou entendre ça. Ça peut avoir un impact sur la santé mentale des personnes à la longue.
Eh bien complètement, c'est vrai que quand moi je parle de fatigue de genre, je parle des fragilisations psychiques et matérielles, mais donc fragilisation psychique, et on est complètement dedans. C'est-à-dire que quand on parle de charge pédagogique, par exemple, eh bien là, on va être dedans. C'est-à-dire, il y a des moments parfois pour poser des questions. Parfois, les personnes, elles sont présentes pour pouvoir répondre à des questions de manière informative, c'est aussi important. Mais parfois, en fait, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que sur un lieu de travail, par exemple, parfois, ce n'est pas du tout l'endroit, le lieu, la personne n'est pas disposée, et peut-être la personne n'a pas envoyé de signaux, en tout cas. Et c'est-à-dire que la personne peut ressentir une culpabilité, même parfois, à se dire, si je ne réponds pas, c'est-à-dire que eh bien, je ne participe pas à expliquer pédagogiquement effectivement ce qu'on appelle le genre, ce qu'on appelle la transidentité, ce qu'on appelle la non-binarité, etc. Et en fait, on a l'impression souvent de porter le poids du groupe et que si on ne le fait pas, en fait, eh bien, ça nous renvoie à une fatigue aussi qui va s'accumuler par cette impression qu'on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait et qu'on n'est pas à la hauteur finalement eh bien, de notre groupe, de notre communauté. Et ça, c'est pesant parce que parfois, on est aussi fatigué, on n'a pas envie. Et puis oui, parfois, ce n'est pas le moment, en fait, tout simplement.
Vous prenez donc la parole en tant qu'allié. Je trouve ça important parce que vous le dites très, très bien dans votre livre. Vous prenez la parole en tant qu'allié et vous prenez une prise de parole précautionneuse. Comment donc avez-vous trouvé le juste équilibre entre le soutien actif et le retrait nécessaire pour ne pas reproduire justement ce problème de domination?
Alors effectivement, pour avoir beaucoup lu les questions de système de domination et des normes de pouvoir, je me suis dit, pour avoir beaucoup écouté et travaillé avec des autrices féministe, j'ai bien compris qu'il était important, moi en tant qu'homme, même si je suis un homme queer, en tant que j'ai quand même une casquette homme, et l'idée c'est pas de reproduire ce système de domination. C'est-à-dire que l'idée, quand on est un allié féministe, c'est de pouvoir porter la parole de personnes qui se sont battues, qui sont encore violentées aujourd'hui. Je suis beaucoup de moi d'autrices militantes féministes qui sont attaquées violemment, menacées de mort. Et en fait, moi, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, mon rôle, ça va être de porter cette voix-là, de porter cette parole, de l'amener peut-être à des personnes qui n'ont pas entendu, mais surtout pas de me réapproprier le propos et le contenu. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que sinon je reproduis ce système bah, que je tends à combattre. Donc j'ai envie d'être cohérent et congruent finalement dans ma parole.
Moi, je pense qu'à la lecture du livre, le ton, en tout cas, donne vraiment le ton du livre. Ça vous fait comprendre que vous prenez bien soin de ne pas prendre la parole au nom d'hommes et de bien reproduire. Je pense qu'on le voit très bien. Et d'ailleurs, vous évoquez hein, le burn-out militant. C'est toujours quelque chose, moi, que je crains pour mes amis qui travaillent plus comme militants. Quelles alertes hein, devraient donc. C'est quoi les signes qu'on devrait reconnaître? Ah, là, je suis en train de faire un burn-out, je devrais faire attention, passer le flambeau à une autre personne ou prendre une pause.
C'est pas évident de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'en parallèle de l'ouvrage, j'ai essayé de développer même des outils pour évaluer un petit peu cette fatigue de genre, un fatigomètre, un petit peu, à l'image des violentomètres. Et cette idée qu'on ne se rend pas bien compte, en fait, sur les signaux qu'on est fatigué. Et finalement, je me suis rendu compte que dans les signaux, dans les signes, en fait, on retrouvait eh bien, quelques éléments communs, justement, au burn-out. C'est d'où l'exemple que vous avez pris et qui est très juste. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce processus d'usure qui va être progressif. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'isolement, quand on va être un petit peu dans l'irritation, quand on va avoir un stress qui commence à s'installer, qui va être complètement chronique, et qu'en fait, quand la fatigue, dans les stades de fatigue, elle n'est plus au stade 1, c'est-à-dire le fait de se reposer va permettre effectivement de retrouver de l'énergie, quand on commence à être dans un état où le fait de se reposer ne suffit plus, là, attention, il faut commencer à se dire, je suis peut-être dans le jaune, voire l'orange, et là, il faut peut-être que je fasse attention, que je prenne soin de moi, en tout cas. Ça, c'est important.
Vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux, du moins je pense sur LinkedIn, demandant à des personnes de vous alimenter un peu leurs impressions, des témoignages. Est-ce que des témoignages qui vous ont vraiment, comment je pourrais dire, choqué, bouleversé?
Ça m'a vraiment bouleversé. En fait, j'ai senti de la part des personnes qui se confient à moi. Déjà, j'ai apprécié la confiance et j'ai senti que pour certaines personnes, enfin, on leur proposait de pouvoir se livrer, de livrer quelques éléments. Et j'ai senti des cris du cœur. C'est-à-dire que j'ai eu un témoignage, par exemple, qui expliquait ce qu'on appelle la gender envy, une personne trans qui disait « Je n'arriverai jamais à vivre le genre, en tout cas mon fait genre, ma transitude. » Et ça m'a profondément marqué, ça m'a profondément ému parce qu'on sentait une vraie détresse en fait, chez la personne qui se disait « À cause de la société, finalement, et des injonctions et des stigmatisations plurielles, en fait, je n'arriverai jamais, finalement, à vivre mon genre parce qu'en fait, eh bien, en fait, on me l'interdit. » Et en fait, ça m'a vraiment ému, ou sur le milieu professionnel aussi, des personnes qui disent je suis épuisé au quotidien de devoir justifier mon pronom, je suis épuisé au quotidien de devoir expliquer qui je suis, et devoir en tout cas tout simplement expliquer le fait que c'est un système qui arrange et peut-être qu'il faut le réinterroger. Et moi, ça m'a vraiment ému, en tout cas, ces cris du cœur, en tout cas, ça venait vraiment des entrailles et ça m'a vraiment touché.
Vous avez aussi des conseils hein, pour les personnes qui entourent les personnes trans, les personnes non-binaires, les femmes aussi, les personnes queer, de repenser un peu leur comportement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous auriez, tant pour les organismes, les employeurs, peut-être même pour l'État, pour que ça arrête ce genre de violence?
Ben en fait, pour stopper un petit peu ça, déjà, moi, j'ai essayé de trouver une approche assez apaisante, c'est-à-dire que je ne voulais pas polariser davantage en fait, les choses. Moi, l'idée, c'était vraiment de témoigner de l'asymétrie de la situation. C'est-à-dire que souvent, on vient me voir en disant, tu sais, pour nous, c'est fatigant aussi. Je parle de personnes, par exemple, si c'est hétéro, qui me disent, tu sais, pour nous, c'est fatigant de faire attention à un pronom. Et ben, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aussi apporter eh bien, de la documentation pédagogique, de l'information pour expliquer que la balance, elle n'est pas équitable, en fait. C'est-à-dire que j'entends votre inconfort, mais vous ne pouvez pas le mettre sur une même symétrie, sur la même balance, en tout cas, qu'une fatigue de genre vécue, subie de personnes qui subissent le stress minoritaire, etc. Et aussi, parfois, prendre son temps et accepter, parfois, eh bien, de se reposer quand même, c'est important parce que l'épuisement, encore une fois, hein, quand on parle de burn-out, on va jusqu'à l'effondrement et on le sait bien dans les conseils qui sont donnés sur le burn-out, il y a vraiment cette idée à un moment donné, être entouré, demander de l'aide, etc., même si ce n'est pas facile, mais essayer en tout cas d'avoir de conscience de l'état dans lequel on est et essayer de ne pas trop s'épuiser davantage, quoi, et d'essayer de ne de pas être trop dans la saturation et de retrouver des espaces respirables. Moi, vraiment, c'est ce que je souhaite autour de moi.
Oui, et vous proposez donc aux gens aussi de se déculpabiliser hein, si elles ne peuvent pas continuer. Elles ont droit à répit, puis elles ne peuvent pas toujours être fières et actives en tout temps. C'est vraiment important. Je dois arrêter ici, Vincent Patigny. Merci beaucoup. Donc,
Un grand merci.
je rappelle que l'essai « Comment survivre à votre fatigue du genre » est publié chez Double Ponctuation en France. Merci beaucoup, Vincent. À la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.